RJB Info, Olivier Zanot.
Bonsoir. Jeanne Jacob est la lauréate 2020 du prix de la Société des Beaux-Arts de Bienne. La jeune artiste de 26 ans vit à Bienne où elle a son atelier. Ses peintures mettent souvent en scène des personnages à la fois sensuels et vulnérables dans des univers colorés et qui ne sont pas dénués de certains traits humoristiques. Un aspect important selon Jeanne Jacob et surtout un aspect qui n'empêche en rien d'évoquer des thèmes sérieux, voire tabous.
C'est que l'ironie, ça aide, hein, de manière générale, je dirais, dans la vie. Non, ouais, j'aime bien faire des blagues dans mes tableaux. Je pense que les thèmes que je thématise sont, là, par exemple, la sexualité. Je pense que c'est chouette si on peut faire des blagues avec. Et de montrer quelque chose de plus drôle. J'essaie de faire des corps qui sont plus androgynes ou plus drôles que stéréotypés.
On est ici dans votre atelier, hein. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire cet endroit et puis comment vous vous y sentez ?
Ouais, je me sens bien. Les murs sont en bois. C'est dans l'infoquartier de Mâche. Il y a des poutres, il y a pas mal de tableaux et des images un peu accrochées. J'ai un tapis par terre, j'aime bien travailler par terre. Où je lis aussi, j'écris des textes. J'ai pas très bien rangé aujourd'hui. Ouais. C'est un peu l'extension de mon corps, de ma peau. C'est un peu chez moi.
Le prix de la Société des Beaux-Arts de Bienne permet à Jeanne Jacob d'obtenir une bourse. Elle pourra aussi présenter ses œuvres récentes au Centre d'art Pascard à Bienne à l'occasion de la cantonale Berne-Jura, en espérant un assouplissement des mesures Covid-19 et la réouverture des musées au mois de décembre. La vente aux enchères de Caritas Jura prendra une forme particulière cette année à cause de la crise sanitaire. L'événement se déroulera principalement en ligne, dès vendredi et jusqu'au 13 décembre. Les personnes intéressées par des objets récupérés par l'atelier Valorisation des dons pourront ainsi directement miser sur Internet. Le catalogue comprend 120 lots. Le responsable de la vente nous explique ce que le public pourra notamment y trouver, Baptiste Préto.
C'est vrai qu'on aime offrir une variété hein, dans les objets proposés pour que ça puisse plaire à un plus grand nombre et pour que tout le monde puisse y retrouver, hein, autant la personne spécialisée dans un domaine de collection bien précise ou au simple curieux qui va avoir une décoration chez lui. Donc on pourra retrouver autant des ouvrages anciens que des verreries de renom, hein, du Dôme, du Saint-Lambert, aussi des pâtes de verre dans le style Art Nouveau. On va aussi avoir de l'art asiatique, africain, des jouets vintage. En taux lithographié, on va aussi avoir des objets traditionnels suisses, je dirais, et aussi une belle sélection d'œuvres d'artistes jurassiens connus.
Et notez qu'il sera aussi possible de faire des mises par le biais d'ordres d'achat manuscrits. Toutes les propositions seront dépouillées le 14 décembre en présence d'un notaire assermenté et l'enchère la plus haute remportera le lot. Cet accident dans les Alpes bernoises, un Suisse de 47 ans s'est tué hier après-midi en parapente à Wengen. Il était parti du Jungfraujoch en direction d'Interlaken. Le parapentiste a heurté des rochers, s'est écrasé sur le glacier du Gougi. Il était décédé à l'arrivée des secours, indique ce dimanche la police cantonale bernoise. Un mot sur la situation pandémique dans le canton. 800 cas supplémentaires ont été recensés ce week-end alors que 12 décès ont été déplorés selon les chiffres diffusés sur le site be.ch. Le taux de positivité des tests était toujours élevé selon les dernières données, autour de 20%. On rappelle que 390 personnes étaient hospitalisées dans le canton vendredi, un chiffre stable. La prochaine mise à jour est attendue demain, tout comme les nouvelles données au niveau national. Et pendant ce temps, la polémique enfle en Suisse concernant la préparation de notre pays face à la deuxième vague de coronavirus. Le sujet a fait les gros titres de la presse dominicale ce week-end. Selon Le Matin Dimanche, qui a eu accès à des procès-verbaux de la Task Force Covid-19 de la Confédération, la gestion de la pandémie aurait déraillé pendant l'été. Alexandre Rosset.
Le journal affirme que la Confédération a réagi de manière hésitante et qu'elle a été freinée par un manque de soutien politique à de nouvelles restrictions. Pour plusieurs experts, l'erreur de la Suisse a été de laisser gonfler le nombre de cas au cours de l'été sans trop s'inquiéter. Le journal souligne que le virus a commencé à regagner du terrain dès que le Conseil fédéral a réautorisé le 22 juin les manifestations de moins de 1000 personnes. Des affirmations confirmées par le délégué de l'OMS pour le coronavirus dans les journaux du groupe SHMED. David Nabarro y dénonce l'absence de mise en place d'infrastructures nécessaires pendant les mois estivaux. De son côté, la directrice de l'Office fédéral de la santé publique rejette ces accusations dans le Sonntagsblick. Peu importe à quel point on se prépare, à la fin, on n'est pas prêt à tout, affirme Anne Lévy qui admet que personne ne s'attendait à ce que les chiffres augmentent aussi rapidement.
Et la directrice de l'OFSP qui parle également d'une amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie, une tendance à la baisse plus forte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, selon la NZZ Am Sonntag et la Sonntag Zeitung. L'OFSP, justement, est en train d'élaborer une nouvelle stratégie pour maîtriser la situation. Si un cas positif se révèle au sein d'un groupe précis, ce dernier sera testé dans son ensemble au moyen de tests rapides. C'est Daniel Dovalder, le porte-parole de l'OFSP, qui a confirmé cette information, également parue dans la presse dominicale. Cette stratégie s'appliquera par exemple aux écoles ou aux EMS. Elle doit être mise en place ces prochaines semaines. En France, la présence du Covid-19 vient d'être détectée dans un élevage de visons au sud-ouest de Paris. Des contaminations avaient déjà été observées dans d'autres pays, au Danemark notamment, où l'abattage de millions d'animaux a été ordonné par les autorités. En France aussi, la totalité des 1000 visons concernés sera tuée. C'est le gouvernement qui l'a annoncé aujourd'hui. Genevoise d'adoption, la Française Noëlla Rouget, résistante et déportée, est décédée aujourd'hui dans sa 101e année. Elle avait reçu en février les insignes de Grand Croix de l'Ordre National du Mérite, une très haute distinction française. Elle avait alors déclaré ceci: « Comment aurais-je pu imaginer, alors que je pesais 32 kilos et que je souffrais de tuberculose, que je serais encore en vie 75 ans plus tard ?» Durant de nombreuses années, Noëlla Rouget a parlé devant des classes et accompagné des élèves visiter les camps de concentration. Les partisans de l'opposition belarusse sont à nouveau manifestés ce jour contre le président Alexandre Loukachenko. Quelques dizaines de milliers de personnes ont défilé dans différents quartiers de la capitale Minsk en scandant « Vive le Bélarus » et en brandissant des drapeaux rouges et blancs, les couleurs de l'opposition. Des opposants qui réclament la démission d'Alexandre Loukachenko, réélu pour un 6e mandat en août malgré des accusations de fraude massive. Joe Biden annoncera mardi les noms des premiers membres de son futur gouvernement. Ron Klain, proche conseiller du président élu américain, l'a indiqué aujourd'hui. Le gouvernement s'annonce diversifié et féminisé, selon ses propos. On passe au sport et à l'équipe de Suisse féminine de ski alpin qui fête son premier podium de l'hiver. Michèle Guizine a pris la deuxième place du slalom de Coupe du Monde de Lévis aujourd'hui. L'Obvaldienne a été devancée de 31 centièmes par la Slovaque Petra Vlova qui s'était déjà imposée la veille entre les piquets sur la piste finlandaise. Le podium est complété par l'Autrichienne Katharina Linsberger. Wendy Holdener a terminé quatrième, juste devant l'Américaine Michaela Schifrin. Michèle Guizine a réussi là le meilleur résultat de sa carrière en slalom, Emily Momentaler.
Et il n'a pas manqué grand-chose à Michèle Guizine pour décrocher sa première victoire en Coupe du Monde. Une victoire au slalom que la Suisse attend d'ailleurs depuis plus de 18 ans et un succès de Marlies Öster. Mais après sa 5e place de la veille, Michèle Guizine a montré qu'elle pouvait regarder les meilleurs de la discipline droit dans les yeux. À l'aise sur le plat, convaincante dans la pente, elle a sans doute perdu la course sur le haut du tracé où elle a concédé du temps à Petra Vlova lors des deux manches. La polyvalente obvaldienne compte désormais un podium dans toutes les disciplines, sauf en géant où elle se rapproche gentiment des meilleures. Ce bilan très positif est complété par les deux quatrièmes places obtenues par Wendy Holdener ce week-end à Lévis.
A noter que la neuchâteloise des Rémances Mélanie Meillard est partie à la faute sur le premier tracé aujourd'hui, après sa brillante 9e place obtenue la veille en Finlande. Le monde du ski suisse a par ailleurs appris une triste nouvelle. La tessinoise Doris De Agostini s'est éteinte à 62 ans, selon le portail internet tessinois tio.ch. La skieuse d'Airolo était une brillante descendeuse, discipline dans laquelle elle a décroché le bronze mondial en 1978 et le petit globe de la Coupe du Monde en 1983. Doris De Agostini a signé 8 victoires et 19 podiums durant une carrière assez courte, puisqu'elle avait décidé d'arrêter la compétition à seulement 25 ans. En Super Ligue de football, il n'y a pas eu de vainqueur lors des rencontres de cet après-midi qui viennent de s'achever. Lausanne a ramené un point de son déplacement chez le 3e Saint-Gall, score final 2-2. Même résultat entre Sion et Zurich, alors que Servette a fait match nul 1-1 face à Lugano, qui est 2e du classement. Les Suisses hors des points lors du Grand Prix de Moto 2 du Portugal. Les Bernois Thomas Lutier et Dominique Egerter ont terminé 16e et 20e aujourd'hui à Portimao. La victoire est revenue à l'Australien Rémi Gardner, tandis que l'Italien Enea Bastianini s'adjuge le titre mondial au terme de cette dernière course de la saison. Le Portugais Miguel Oliveira s'est lui imposé en Moto GP. En Moto 3, Raúl Fernandez a franchi la ligne en tête alors qu'Albert Arenas s'est sacré champion du monde. Le fribourgeois Jason Dupaquier s'est classé 23e. Et Michael Vogt grimpe à nouveau sur la boîte en Boba 2. Comme hier, le pilote suisse et son pousseur Sandro Michel ont fini 3e cet après-midi à Sigulda en Lettonie. Enfin, un mot de tennis, le circuit va couronner un nouveau maître. Dominic Thiem et Daniil Medvedev tenteront de remporter le Masters pour la première fois de leur carrière ce soir. La finale entre l'Autrichien et le Russe se tient à 21h à Londres. C'est la cinquième année de suite que le dernier tournoi de la saison va sacrer un champion inédit. Les précisions d'Alexandre Rosset.
C'est bien à Londres que les contours de cette relève tant attendue se dessinent le mieux. Elle est symbolisée cette année par cette affiche entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev. Ils ont réussi l'un et l'autre à battre successivement les deux meilleurs joueurs du monde cette semaine. Les trentenaires Novak Djokovic et Rafael Nadal qui sont de moins en moins seuls sur leur planète lorsque le match se joue au meilleur des 3-7. Cette finale aura des airs de revanche pour le Russe qui avait été battu en demi-finale du dernier US Open par Dominic Thiem qui en avait profité pour s'adjuger son premier grand chelem. C'est aussi l'occasion pour Daniil Medvedev de remporter le plus beau titre d'une carrière qui a pris l'ascenseur depuis une année et demie. L'Autrichien tentera lui d'ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès, une sorte de confirmation après avoir échoué au même stade l'année passée devant le grec Stefanos Tsitsipas. Cet ultime match dans l'O2 Arena promet d'être spectaculaire et tendu malgré l'absence de public. Si les deux joueurs sont parfaitement légitimes pour soulever le trophée, un seul conclura cette saison particulière en beauté.
Et la finale de ce Masters de tennis est donc ce soir à 21h entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev. On termine ce journal par un mot sur la météo. Le début de semaine s'annonce dans les mêmes tons que ce week-end. La nuit sera froide avec des valeurs encore une fois sous le zéro. Et c'est une matinée brouillardeuse qui lui succédera dans le Seeland, au pied du Jura et dans les vallées notamment du Givre. Attention, hein, et toute cette grisaille va disparaître au fil des heures pour laisser place à un temps largement ensoleillé avec environ 6-7 degrés au meilleur de la journée. La bonne nouvelle, c'est que le soleil restera bien présent la majeure partie de la semaine. On dit merci à l'anticyclone qui nous protège. La météo, vous la retrouvez en détail sur notre site internet, tout comme le reste de l'actualité. Très belle fin de week-end et bonne soirée.